Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
Sur tous les fronts, particulièrement vigilant sur le front germanique, Ignace ne délaisse pas, et de loin, les appels qui surviennent déjà de quatre continents. Pape, prince, bienfaiteur et solliciteur le harcèlent. Il faut des hommes pour réformer des couvents, relever des universités, évangéliser les nouvelles terres. Presque tous les premiers compagnons sont menacés d'épiscopat. Telle duchesse veut un collège. Le concile de Trente a besoin de théologiens. François-Xavier réclame à grands cris des compagnons pour les Indes et le Japon. Trois compagnons sont envoyés au Congo. Deux d'entre eux meurent en route. Le troisième tombe sur un roi fou. En 1553, le Brésil est érigé en province avec 30 jésuites. Paris, elle, ne se précipite pas chez le général des jésuites. Mais c'est Ignace qui veut y implanter la compagnie. Il envoie dès 1540 un premier groupe de scolastiques et fonde en 1555 la province de France. La Sorbonne, jalouse, fera cependant obstruction à toute construction de collège. Le premier collège jésuite de France s'ouvrira à Billon en 1556 avec 800 élèves. Au Portugal est fondée dès 1546 la première province de la compagnie, avec Simon Rodrigues, l'un des compagnons de Paris, comme provincial. C'est de Lisbonne que partiront les missionnaires pour l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Nord, le Congo, l'Éthiopie. Mais le Portugal sera aussi l'objet des plus graves soucis d'Ignace. La province est partagée bien vite entre la rigueur et la tiédeur. Le provincial Rodrigues est relevé de ses fonctions en 1551. Il refuse d'obtempérer, entraînant un formidable conflit d'obédience au sein de la jeune compagnie. Le général écrit à cette occasion une lettre sur l'obéissance adressée aux pères et frères du Portugal, mais considérée dès cette époque par tous les jésuites comme la charte de l'obéissance ignatienne. L'obéissance est un holocauste dans lequel l'homme tout entier, sans soustraire rien de lui-même, s'offre dans le feu de la charité à son Créateur et Seigneur par les mains de ses ministres. Le conflit avec Simon Rodrigues donne à Ignace non seulement le prétexte d'exposer sa conception de l'obéissance, mais l'occasion d'en manifester sa propre interprétation à l'opposé d'une sèche application de principes. Le 20 mai 1553, il écrit à Simon une lettre lui intimant l'ordre de venir s'expliquer à Rome. Citation. En vertu de la sainte obéissance, vu l'importance de la chose, je vous le commande de la part du Christ notre Seigneur, venez par terre ou par mer, comme il vous semblera préférable, que ce soit avec toute la célérité possible. Fin de citation. Ignace lui donne 8 jours pour se mettre en route. Le ton est sans réplique. Mais la lettre n'est envoyée que 2 mois plus tard. Avec un post-scriptum d'un style tout différent, « Ayez confiance en moi. Acceptez avec ferveur que nous nous rencontrions. Douceur et fermeté. 2 armes, mais le même homme. L'autorité du général est consciente d'édifier un ordre religieux dont l'accroissement rapide peut menacer la cohésion interne. Sans rigueur, la compagnie est ruinée. Sans affection, elle n'est que froide organisation. Ignace gouverne en alliant obéissance et charité. Ce trait s'applique à toutes ses décisions. Aucun détail ne lui échappe. Il veille aux plus modestes aspects de la vie quotidienne. Le vêtement des frères coadjuteurs, les jeûnes, les pénitences généreusement accordées, l'achat d'une maison, des vivres. Il éprouve, soutient ou corrige vigoureusement son entourage, mais en adaptant son attitude selon une fine approche psychologique des lacunes ou des besoins de chaque compagnon. En telle occasion, il peut se montrer inflexible, chassant de la compagnie pour simple délit d'espièglerie. Ailleurs, il dose subtilement les effets de sa sévérité. Ainsi, lorsqu'il impose à un père âgé la rude pénitence de la discipline, flagellation avec une corde, durant 7 psaumes, il s'arrange avec le ministre de la maison, chargé de faire exécuter la sentence, pour qu'il choisisse les psaumes les plus courts. Ignace surprend ses proches par sa patience à l'écoute des discours inutiles. En revanche, les avis péremptoires et les conseils définitifs l'agacent au suprême degré, même de la part de hauts personnages qu'il traite de décrétistes. L'endurance d'Ignace se révèle encore devant les contraintes harassantes de la pauvreté. La maison de Rome ne connaît pas l'aisance. La table est frugale, mais les bouches nombreuses à nourrir, environ 50 personnes. En 1550, le général doit mendier auprès des cardinaux réunis au conclave qui élira Jules III. Certains jours, les jésuites quêtent leur nourriture dans les rues de la ville. Quant aux frères cuisiniers, anciens épiciers, ce n'est pas un surdoué. Ignace supporte sans rechigner le poulet non assaisonné et mal préparé que lui impose l'incompétence du cuisinier et le régime des médecins. Depuis qu'il est à Rome, l'ancien pèlerin sort peu. Il est rivé maintenant à sa tâche de général. Recevoir des visites, écrire des dizaines de lettres par jour, traiter des affaires courantes. Surtout, il consacre beaucoup de temps à la prière, parfois 6 ou 7 heures par jour. La célébration de la messe occupe une place capitale dans l'horaire journalier. La dévotion d'Ignace est si forte pendant la célébration que les larmes inondent son visage. Il en arrive à perdre la parole. À d'autres moments, il est pris de fièvre. Ses émotions épuisent à ce point sa santé physique qu'il doit renoncer vers la fin de sa vie à la messe quotidienne. Prenez, mon Dieu, ma liberté entière. La santé a toujours été un problème pour Ignace, depuis les macérations de Manresa. En 1550, il est gravement malade et propose sa démission aux compagnons. Proposition refusée. Par la suite, les périodes d'amélioration alternent régulièrement avec les crises. Il endure ses handicaps sans interrompre les activités normales. Durant les premiers mois de 1556, il est à nouveau au plus mal. En février, il ne célèbre plus la messe, se contentant de communier tous les 8 jours. Vers la mi-juin, sa santé semble rétablie. Il se retire dans une maison de l'Aventin au milieu des vignes. Le 27 juillet, il est transporté à nouveau à la Strada. Son état général s'affaiblit, mais n'alarme pas les médecins, ni le secrétaire de la compagnie, le père Polanco. Le 30 juillet, Ignace appelle Polanco et lui annonce, sans témoin, que son dernier jour arrive. Il le prie d'aller en conséquence demander au pape sa bénédiction. Le secrétaire sceptique intervient, « Père, vous sentez-vous si mal que vous semble imminent le départ de cette vie ?» Il le prie de pouvoir remettre cette démarche au lendemain. Ignace acquiesce. Le soir, il prend un léger repas. Consulté, le médecin ne juge pas le péril imminent. Chacun se retire. Ignace est seul. La nuit du malade est agitée. De la pièce voisine, le frère infirmier l'entend prononcer quelques phrases, puis distinctement, de temps en temps, l'exclamation « Ah, mon Dieu !» Le silence tombe. À l'aurore, Ignace est mourant. Polanco se précipite au Vatican. Paul IV, à l'annonce de cette agonie, manifeste une grande douleur et donne affectueusement sa bénédiction. Quand Polanco est de retour, le père est mort. Ignace de Loyola a quitté cette vie sans recevoir les derniers sacrements, sans adresser d'exhortation à ses compagnons, ni les bénir, ni rien faire d'autre qui attira leur attention. Il ne voulait, note Polanco, qu'on lui attribue rien, mais tout au Christ seul, selon le nom de la compagnie, au Christ de qui tout avait été reçu. C'est sur lui seulement, et non sur aucun homme, que devait s'appuyer la confiance de la compagnie. Saint Ignace de Loyola a été canonisé le 12 mars 1622.
Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.